Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission Point de mire. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une fondation, la Fondation Napoléon. Alors, s'agirait-il d'une des nombreuses institutions créées par le premier empereur des Français ? Je vous rassure tout de suite, non. Pas du tout, il s'agit d'une fondation privée créée en 1987 qui s'attache à l'histoire et au patrimoine napoléonien. Mais laissons son directeur, Thierry Lenz, nous préciser son rôle et ses activités. Bonjour Thierry Lenz.
Bonjour Laetitia De Witt.
Comme je viens de le dire à l'instant, vous êtes directeur de la Fondation Napoléon. D'ailleurs, ne fêtez-vous pas vos 10 ans à la tête de cette institution ?
Non, pas tout à fait. Je sais que le temps a paru long à certains, non, mais ça fait que 9.
Disons également deux mots sur vos autres activités. Vous êtes chargé de cours à l'Université Paris 4 Sorbonne et auteur de nombreux ouvrages sur la période napoléonienne. Votre dernier bébé, si j'ose dire, est un dictionnaire des institutions administratives et de cours du consulat et de l'Empire, publié sous votre direction aux éditions Talendier, et avec pour titre « Quand Napoléon a inventé la France ». Mais revenons donc à la Fondation Napoléon et expliquez-nous ce qu'elle est, qui est à l'origine de cette fondation et quelle est sa mission.
Vous disiez tout à l'heure, est-ce une création de l'empereur ? On pourrait dire d'un empereur, oui, l'empereur de l'aménagement de la maison individuelle, puisque c'est le bienfaiteur de cette fondation et Martial Lapeyre, le fondateur des menuiseries du même nom, qui est décédé en 1984 et qui avait laissé un testament léguant toute sa fortune à l'association du souvenir napoléonien. Or, il est rare que l'État autorise une association à recevoir un legs de cette importance. Et ça a été le cas aussi à ce moment-là. Et l'État a donc exigé la création d'une fondation, une fondation privée, comme vous le disiez tout à l'heure, dans laquelle cependant l'État garde un œil. L'État garde toujours l'œil quelque part et on dira tant mieux, puisque dans un conseil d'administration de 12 membres, il y a 3 représentants de l'État, 2 du ministre de la Culture et 1 du ministre de l'Intérieur.
On connaît mieux le fonctionnement maintenant de la fondation. Mais quelles sont les activités, quelle est la mission de la Fondation ?
Les missions de la Fondation sont d'abord définies par le testament de Martial Lapeyre, qui a laissé des instructions, somme toute, assez précises, mais à la fois précises et suffisamment larges pour que la Fondation puisse s'adapter un petit peu à la modernité des temps, si je puis dire. Donc, en gros, nos missions sont de 2 ordres. La première, c'est de développer la connaissance, la recherche, l'histoire des 2 empires, car nous nous occupons des 2 empires, Napoléon Ier, Napoléon III, donc en fait, quasiment de tout le 19e siècle, le siècle des Napoléons. Et puis la deuxième partie, c'est la préservation du patrimoine qui elle-même se divise en 2 parties. La première, c'est la préservation de notre propre patrimoine, puisque la Fondation Napoléon a reçu aussi de Martial Lapeyre une extraordinaire collection d'objets qu'elle a depuis complétée par des achats ou par d'autres legs. Et puis de l'autre côté, nous aidons aussi un certain nombre de monuments napoléoniens lorsqu'ils en ont besoin au moyen de subventions, tout simplement.
Oui, alors nous allons peut-être commencer par la première des activités de la Fondation, c'est-à-dire l'aide aux chercheurs et aux historiens. Et tout d'abord, parlons peut-être des grands prix et des bourses d'études, puisque c'est la saison.
C'est la saison, c'est le moment ou jamais pour déposer ces dossiers, puisque, en effet, et ça c'est un des souhaits de Martial Lapeyre, nous donnons chaque année des prix d'histoire et des bourses à des étudiants. Alors les prix d'histoire sont au nombre de 4, donc ça c'est plutôt pour les historiens chevronnés, je dirais ceux qui publient des livres. Donc il y a d'abord un prix sur le Premier Empire, un prix sur le Second Empire. Nous avons un prix du livre non francophone, donc des livres en langue étrangère si vous voulez. Et puis un 4e prix qui est un prix qui nous permet de récompenser des activités napoléoniennes qui ne sont pas de l'écriture. Par exemple, ça a pu être à un moment Robert Hossein pour son spectacle C'était Bonaparte.
Antoine de Caunes
pour le film Monsieur N, mais aussi des romanciers pour des romans qu'ils ont publiés, ou il est possible aussi que la Fondation récompense une personnalité pour l'ensemble de son œuvre. C'est ce que nous avons fait l'année dernière avec Bernard et Daniel Quintin, qui n'étaient pas éligibles au prix parce qu'ils ont publié beaucoup de dictionnaires et beaucoup d'études extrêmement pointues sur l'époque napoléonienne, mais je dirais que leur travail est tellement utile à toute la communauté des historiens que le jury, qui est composé de personnalités éminentes, dont le chancelier de l'Institut, le jury a estimé qu'il fallait les récompenser. Donc ça, ce sont les quatre prix. Parmi ces quatre,
ils
sont assez bien dotés, voilà. 7 500 euros. Et je dois ajouter que parmi ces quatre, le jury a la faculté de choisir ce que nous appelons le grand prix de la Fondation Napoléon, qui lui reçoit 7 500 euros supplémentaires. Donc c'est effectivement un prix qui est assez bien doté. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le sont autant. Mais c'est un prix au jury assez sévère, parce qu'il lui arrive assez souvent de ne pas décerner de prix lorsqu'il juge que, non pas que ça n'en vaut pas la peine, mais que les livres ne sont pas au niveau attendu. Alors ça, c'est donc pour les chevronnés, mais nous avons aussi, et ça c'était aussi une des volontés de Martial Lapeyre, nous aidons les jeunes, si je puis dire.
Oui, j'en ai fait partie.
Et vous le savez, Laetitia, que nous les aidons de tout notre cœur, puisque chaque année, nous décernons 6 bourses d'études à des étudiants de thèse. Alors je le précise pour vos auditeurs qui ne sont encore qu'en master, il faut vraiment être inscrit en thèse, parce qu'on demande notamment le certificat d'inscription. Et à ce moment-là, nous donnons donc ces bourses à des étudiants qui étudient le premier ou le Second Empire, mais dans tous les domaines. Ça peut être de l'histoire, ça peut être de l'histoire de l'art, ça peut être du droit, ça peut être, que sais-je, nous avions une thèse de psychologie aussi à une époque qui était candidate, qui n'a pas été retenue, mais qui aurait pu l'être. Donc, vous voyez, c'est tout ce qui fait la richesse de la recherche napoléonienne. Et aujourd'hui, il faut quand même dire que la Fondation Napoléon a 70 boursiers, ce qui est quand même, puisque les bourses ont été créées il y a 12 ou 13 ans. Au départ, on n'en donnait que 2, puis 4, puis maintenant 6. Et l'année dernière, 7, puisqu'il y a un grand prix qui n'avait pas été donné, on a donné un prix, une bourse supplémentaire. Et on commence maintenant même à récompenser et à donner des bourses à des étudiants étrangers, non francophones. Ça a été le cas l'année dernière. On a donné une bourse à un étudiant américain. Mais là, nous mettons une condition pour les étudiants qui ne sont pas francophones, c'est qu'ils doivent d'abord s'engager soit à apprendre le français, soit à venir travailler dans les archives en France. Parce qu'on a constaté que l'historiographie étrangère lisait assez mal le français et puis venait pas tellement aux archives et que, au fond, les Américains, notamment, commencent à inventer une histoire napoléonienne qui est plus la leur que la nôtre, si je puis dire. Donc là, nous avons un accord avec une université américaine qui se trouve à Tallahassee, en Floride. Je vous rassure immédiatement, ça n'est pas l'endroit de la Floride qui est au bord de la mer, c'est dans les terres, il y a beaucoup de moustiques et il y a même des crocodiles, enfin des alligators. Et cette université a un centre d'études napoléoniennes. Et donc le directeur de ce centre doit vérifier pour nous les inscriptions dans les cours de français, etc. Et nous ne débloquons les fonds qu'à partir de ce moment-là, ce qui fait que notre étudiant américain de l'année dernière, qui a donc été sélectionné en octobre, vient seulement de recevoir la première moitié de sa bourse parce qu'il avait un tout petit peu tardé à s'inscrire à ses cours de français.
Donc il est encore possible de postuler pour cette année.
Oui, nous avons repoussé la date de dépôt des candidatures au 10 octobre 2008 parce que le jury se réunit dans la semaine qui suit et donc nous souhaitons quand même faire une petite analyse des demandes et transmettre un dossier complet au jury. Il y a un collège universitaire à l'intérieur du jury qui donne un premier avis. Il est composé de, évidemment, de Jean Tullard, membre de l'Institut,
de
Jacques-Olivier Boudon, le professeur Bruno Foucard. Tout ça est animé, je dirais, de main de maître par le secrétaire général des prix, qui est Jean-Claude Lacnit, très grand historien du prince impérial notamment, mais aussi une personnalité délicieuse, mais très, très, très sourcilleuse de l'indépendance de son jury.
Et donc, pour ceux qui seraient intéressés, il suffit d'aller sur le site napoléon.org et remplir un petit dossier.
Voilà, c'est ça. Il suffit tout simplement d'avoir une imprimante et accès à Internet et on peut se présenter. Il y a quand même quelques documents à réunir, donc il vaut mieux s'y prendre un peu à l'avance.
D'accord. Donc, et outre les bourses d'études et les grands prix, vous mettez aussi des outils de travail à la disposition des chercheurs. Quels sont-ils ? Enfin, là, je pense surtout à la bibliothèque et au site Internet.
Oui. Ça, c'est une... Alors, il y a deux particularités dans ce que je vais vous dire maintenant. C'est que la première, c'est que nous avons effectivement une bibliothèque ouverte au public, 148 boulevard Haussmann. Il suffit de déposer une pièce d'identité et on a accès à cette bibliothèque. C'est là aussi une volonté de Martial Lapeyre. C'était développer la bibliothèque napoléonienne, qui à l'époque était celle du souvenir napoléonien et qui est maintenant celle de la Fondation Napoléon.
C'est beaucoup développé depuis.
C'est beaucoup développé. On a environ 15 000 ouvrages qui sont assez complémentaires des autres bibliothèques napoléoniennes, parce qu'on a essayé de ne pas se marcher sur les pieds. Vous savez qu'il y a la Fondation Thiers, la bibliothèque Marmottan et nous. Donc nous sommes un peu spécialisés dans les documents étrangers. Donc on a un très très gros fond anglo-saxon, italien, et bon, on a même des langues un petit peu improbables, mais de temps en temps, je ne sais plus, c'est le géorgien, je crois, mais qui est une langue beaucoup plus à la mode en ce moment. Donc voilà, on a ce fond, et qui a, bien sûr, il y a aussi des documents en français, évidemment, puis il y a beaucoup de documents anciens en accès libre, ça c'est quand même un attrait de cette bibliothèque, on n'a pas besoin de descendre à la cave pour aller les chercher.
Des microfiches, on a contact directement avec les livres.
Voilà, et donc là, on a à peu près 700 lecteurs par an, ce qui est correct. Nous avons 14 places, mais en ce moment, certaines sont bloquées par l'opération correspondance de Napoléon, voilà, donc on en parlera tout à l'heure.
Exactement.
Donc voilà, c'est une petite bibliothèque de charme, bien chauffée, bien achalandée et puis assez facile d'accès finalement. Mmh.
Et les autres outils sont les sites
alors,
Internet.
Alors, les sites Internet, ça, c'est la deuxième particularité, c'est que nous avons eu pendant 22 ans, je crois, comme président, le baron Gourgaud. Alors, le baron Gourgaud, sans être, à l'époque où il est devenu président de la Fondation, le noble vieillard, comme on disait, qu'il deviendra dans quelques années, était, à l'époque, déjà une personne assez mûre et une personne, je dirais, née avant la Deuxième Guerre mondiale, si vous voulez. Or, cet homme a été tout de suite moderne. C'est-à-dire qu'au moment où l'Internet a pointé son nez, c'est-à-dire, rappelons-nous, 93-94, et au moment où même des groupes industriels français avaient le choix entre Internet et le Minitel et choisissaient le Minitel, le baron Gourgaud, lui, il a senti tout de suite, sous l'impulsion de la directrice de l'époque, Béatrice de Durfort, il a senti tout de suite que l'Internet avait de l'avenir. Et donc, il a, au fond, laissé Béatrice de Durfort développer ce site Internet qui a donc été ouvert fin 95. C'est-à-dire, aujourd'hui, on trouve ça tout à fait naturel, mais fin 95,
c'était
ouvrir
très
un
précurseur,
site culturel,
oui.
c'était une drôle d'idée. Et ce site s'est développé. Il s'est développé de façon exponentielle depuis cette date.
Donc, napoléon.org.
Napoléon.org. C'est un site qui doit faire, si on doit parler en pages, on doit être entre 80 et 100 000 pages. On y trouve tout, finalement. Il faut aller le voir pour voir à quel point il est riche. Il y a des articles, il y a des jeux pour les enfants. Enfin, et puis surtout, on vient d'ouvrir la troisième version, donc ces jours-ci.
Bravo d'ailleurs, au niveau design. Très bien.
Et je transmettrai à Irène Delage, qui a suivi ce dossier. Ça fait un an et demi que toute l'équipe de la Fondation s'est mobilisée sur ce dossier. Ça a été un dossier un petit peu compliqué, mais bon, on ne va pas embêter vos auditeurs. Après tout, nous n'avons fait que notre travail. Aujourd'hui, on a donc cette troisième version du site. Pour vous donner quelques chiffres, le site accueille 3 500 000 visiteurs par an. Il y a une lettre internet qui est adossée à ce site qui a 7 500 abonnés. Elle paraît tous les vendredis après-midi et c'est une lettre qui est gratuite et dans laquelle vous avez toute l'actualité napoléonienne, pas seulement, il y a beaucoup de livres,
mais
il y a aussi des petits échos, les petites expositions, les indiscrétions qu'on ne manque jamais d'avoir à gauche et à droite. Et puis, prochainement, un partenariat avec Canal Académie, puisque nous allons reprendre vos émissions napoléoniennes qui sont de haute qualité.
On parlait donc du site napoléon.org, mais ce site a un petit frère, j'allais dire, qui est napoléonica.org.
Alors ça, c'est encore une idée de Béatrice de Durfort. Elle a eu beaucoup d'idées qui m'ont donné beaucoup de travail. Je l'en remercie et j'en profite. À partir de 1998, la Fondation Napoléon avait passé un accord avec le Conseil d'État pour mettre en ligne les archives subsistantes du Conseil d'État, c'est-à-dire globalement le fonds Gérando, qui est un fonds de 4 à 5 000 documents qui sont les documents de travail du Conseil d'État. Alors moi, je suis arrivé en 2000 et j'ai repris le dossier donc après Béatrice et nous avons ouvert ce deuxième site internet, napoléonica.org, qui est un site d'archives. Alors, il est beaucoup moins ludique que napoléon.org, mais c'est un site sur lequel on trouve aujourd'hui donc, les archives du Conseil d'État, l'ensemble de la correspondance administrative de Vivant Denon, un petit bout de correspondance inédite de Napoléon avec son ministre des Cultes. On doit trouver encore des documents relatifs à la proclamation de l'Empire. Enfin, il y a, disons, à peu près 12 000 documents qui sont accessibles avec un moteur de recherche qui, si vous me passez l'expression, fait papa-maman, c'est-à-dire qu'il est assez facile d'utilisation. Et puis napoléonica.org a maintenant aussi un petit frère qui est une revue historique en ligne qui s'appelle Napoléonica la revue. Tout ça est attaché, mais on peut y accéder par le site principal napoléon.org. C'est une revue scientifique en ligne, donc c'est une revue qui a un comité scientifique qui donc valide les articles et ne fait pas, de l'actualité napoléonienne, mais fait véritablement de la recherche, parce qu'on a constaté qu'il y avait une offre faible. Aujourd'hui, l'offre principale, c'est la revue de l'Institut Napoléon, qui fait paraître, compte tenu des moyens de l'Institut Napoléon, 3-4 articles par numéro, 2 ou 3 fois par an. Et on s'est dit qu'il n'y avait pas assez d'offres l'offre de recherche. Et donc, on a décidé de créer cette revue qui publie entre 7 et 8 articles 3 fois par an.
Donnez aussi la parole à des professeurs étrangers.
Voilà. Alors, c'est un peu la spécificité. C'est que d'abord, le comité scientifique est composé d'une quinzaine de personnes, dont 12 ne sont pas françaises. Donc, ça donne une vision un petit peu mondiale du phénomène. Alors, la revue est publiée en français ou en anglais, non pas en français et en anglais, mais en français ou en anglais. Donc on a deux langues officielles dans cette revue. Mais c'est vrai que pour le moment, on a beaucoup d'articles en français. Elle a une autre spécificité, c'est qu'elle est payante, car nous avons bénéficié d'une aide très importante du Centre National du Livre pour la créer. Et une des conditions de cette aide est que la revue soit payante. Donc l'abonnement a été fixé à 60 euros par an. Mais 60 euros par an pour l'équivalent de 2000 pages, on peut estimer que ça reste supportable.
Et sinon, chaque numéro est disponible à l'achat. Le sommaire est annoncé.
Est annoncé sur le site de la revue. On peut acheter les articles à l'article. Donc là, je crois que c'est 7 euros le tarif. Et on peut dire que ça démarre assez correctement puisque nous avons ouvert ce site en mai et qu'on doit être à peu près à 80 lecteurs aujourd'hui. Notre objectif est d'atteindre, disons, entre 300 et 400 dans les 5 ans.
Donc ça, c'était pour l'aide aux chercheurs. Mais parlons maintenant du second domaine d'action de la Fondation Napoléon, qui se rapporte plutôt à la production historique. Donc là, nous allons parler de quelque chose qui vous tient très à cœur, je crois. C'est donc un énorme chantier que vous avez lancé depuis 2001, qui est l'édition de la correspondance générale de Napoléon Ier. Donc il s'agit de réunir et publier l'ensemble de la correspondance de Napoléon Ier.
Voilà. Alors, ce n'est pas à vous, Laetitia.
Pourquoi et comment avez-vous engagé ce travail éditorial ?
Tout ça commence toujours par une jolie histoire. Il se trouve qu'au moment où je suis arrivé à la Fondation Napoléon, j'avais proposé au baron Gourgaud que la Fondation Napoléon prenne en charge directement un grand projet historique. Voilà comment je l'avais défini. Et puis j'avais dit au baron Gourgaud, écoutez, est-ce que vous auriez une idée ? Et le baron Gourgaud, du tac au tac, a répondu, il faudrait rééditer la correspondance de Napoléon. Alors je n'ai pas dit oui tout de suite, parce que je voulais d'abord vérifier si c'était faisable, etc. Puis bon, au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que ça l'était. Donc j'ai dit au baron Gourgaud que c'était formidable et qu'on allait bien sûr se lancer là-dedans. Sauf que c'est comme une pelote de laine, hein, quand plus vous tirez la ficelle et plus vous avez de choses à faire. Et c'est devenu aujourd'hui une opération d'une ampleur, je crois, assez inconnue au niveau de la recherche historique. D'abord par la masse de documents qu'on va publier, 35 000, par le temps qu'on va mettre à les publier. Normalement, en 2012, nous aurons terminé une publication commencée en 2004, donc 8 ans pour publier 13 volumes, 35 000 documents qui sont tous commentés, replacés dans leur contexte avec des chronologies, des articles particuliers pour expliquer telle ou telle chose. Bon, c'est assez remarquable. Et puis surtout, nous avons bénéficié du soutien des Archives de France qui ont, au moment de la création de ce projet, ont diffusé ce qu'on pourrait appeler une circulaire mondiale en quelque sorte, où toutes les archives du monde ont été informées de ce projet. Et le miracle ou la preuve que tous ces gens-là sont très sérieux, c'est que nous avons reçu des réponses, des copies de lettres ou des invitations à venir consulter des fonds de 145 centres d'archives dans le monde, représentant une centaine de pays. La même circulaire a été envoyée en France aux archives départementales et municipales. Là aussi, on s'est retrouvé avec, je dirais, une bonne centaine de centres qui possédaient des lettres de Napoléon. Les archives nationales en ont. Les collectionneurs privés ont été sollicités. Certains d'entre eux ont formidablement bien répondu. Et même continue à répondre maintenant, parce que comme l'opération devient un petit peu connue, ils nous font part de ce qu'ils ont.
Retrouvez des lettres.
On retrouve des lettres, c'est absolument fabuleux.
Mais vous retrouvez des lettres de volumes qui ont déjà été publiés.
Oui, alors il nous obligera probablement à publier une partie de supplément dans le dernier volume, mais on trouve des choses absolument fabuleuses. Juste pour vous prendre deux fonds absolument inouïs, c'est le premier, ce sont les lettres de Napoléon à Cambacérès, qui était en main privée jusqu'à très récemment, et le propriétaire de l'époque ne voulait pas nous les prêter. Il y en a 800 quand même, donc c'était important pour nous de valider celles qui étaient connues ou d'avoir les inédits. Et puis ce fonds a été racheté par le musée des lettres et du manuscrit qui se trouve donc à Paris, qui est un musée privé. Et la première réaction de ces gens a été de dire, mais venez les voir. Et non seulement on est allé les voir, mais ils nous ont donné le CD avec la copie de toutes ces lettres. Donc ce qui fait que, vous voyez, ça c'est un fonds. On en connaissait beaucoup, mais il y a peut-être 50, 60, 100 inédits. On est en train de les dépouiller maintenant. Un autre exemple, un descendant par les femmes de Lebrun, architrésorier de l'Empire, qu'on n'aurait jamais repéré comme étant un descendant de Lebrun, parce qu'il n'a absolument plus le même nom, il n'a même pas un nom de noblesse d'Ancien Régime, etc., qui est venu nous voir et qui a dit, écoutez, ben, je descends de Lebrun et j'ai les papiers. Alors on lui a dit, faites voir. Et effectivement, il nous a donné 200 ou 300 lettres de Napoléon à Lebrun, alors là, pour lesquelles, franchement, beaucoup étaient inconnus.
Totalement inédites.
Et on a pu trouver aussi, on a regardé l'ensemble de ces archives, parce qu'on est quand même très curieux, et puis on a trouvé, par exemple, un fait que moi, qui ai pourtant beaucoup étudié ce domaine, je ne connaissais pas, c'est que quand Napoléon partait en campagne, il confiait généralement l'intérim à Cambacérès. Or, il se trouve qu'entre novembre 1807 et janvier 1808, c'est à Lebrun qu'il a confié, et ça, je crois jamais l'avoir vu quelque part, et c'est pourtant une période assez intéressante, parce que c'est l'époque de la fameuse conspiration Joseph Talleyrand-Murat. Donc c'est Lebrun qui était aux affaires à ce moment-là. Mais il y a bon, ce fond.
Vous allez encore en découvrir. Donc.
On va découvrir des tas de choses.
Formidable.
Alors, sans arrêt. On a un petit problème, mais le dire à votre antenne, mais ça va amuser vos auditeurs, c'est qu'on a un problème avec la Russie. La Russie a énormément de lettres de Napoléon, mais qui sont dispersées dans des centres d'archives, là aussi un peu improbables, dans des villes assez éloignées. Et on a un mal fou à les avoir. Et pourtant, le ministre de la Culture russe nous soutient. L'ambassadeur de Russie en France a fait tous les courriers qu'il fallait. On n'arrive absolument pas à faire débloquer.
Vous n'avez aucune réponse.
On a alors vraiment, voilà, c'est ça, c'est le grand désert russe et le grand silence. Bon, mais on ne désespère pas.
Il faut aussi remercier à ce micro peut-être tous les bénévoles auxquels
oui,
vous faites
voilà,
appel.
Alors, c'est encore une des particularités,
voilà.
C'est que pour traiter ces 35 000 lettres, si on avait dû embaucher du personnel, on aurait 25 personnes. Quoi. Et donc, on n'a pas les reins suffisamment solides. Donc, on a eu l'idée, c'est une de nos collaboratrices qui s'appelle Émilie Bartet qui a eu cette idée, c'est d'abord de créer un logiciel de traitement de cette correspondance. Donc, l'École centrale des télécoms ou l'École nationale des télécoms a créé pour nous ce logiciel. Donc, c'est un logiciel qui ne servira et ne peut servir qu'à traiter la correspondance de Napoléon, mais bon, il a quand même du travail. Donc, il compare les dates, les incipits, etc. pour éviter les doublons. Donc, il fait déjà, mais pour entrer les informations là-dedans, nous nous sommes dit que la passion napoléonienne pourrait s'exprimer dans une des dernières aventures napoléoniennes de l'histoire. Et on a donc lancé un appel aux membres d'associations, aux passionnés de Napoléon, etc., en leur disant, écoutez, là, il y a de quoi vraiment assouvir votre passion parce que vous allez voir passer des choses assez exceptionnelles. Et on a à peu près, depuis le début de l'opération, ce sont à peu près 200 personnes qui ont travaillé pour nous. Actuellement, le chiffre exact doit être de 60 qui viennent régulièrement à la Fondation Napoléon, travaillait sur nos ordinateurs.
Et donc, c'est pour ça que la bibliothèque est occupée.
C'est pour ça que la bibliothèque est partiellement occupée. Et ce sont des personnes qui mettent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie au service de cette entreprise, que nous ne rémunérons pas. On essaie de temps en temps de leur faire des petites journées pour eux, des conférences particulières ou des choses comme ça, pour non pas les récompenser, parce que ce n'est pas du tout ce qu'ils cherchent, mais pour les remercier, parce que sans ces personnes bénévoles, l'opération correspondance de Napoléon aurait pris 40, 50 ou 60 ans. Quoi. Or là, en quelques années, je me rappelle toujours, à l'ouverture de notre comité, on a donc un comité historique qui s'occupe de tout ça, qui est présidé par notre président, Victor-André Masséna, et Jean-Claude Casanova, membre de l'Institut. On avait demandé au professeur Tullard d'adresser quelques mots au comité, et Jean Tullard avait dit ceci, il avait dit, écoutez, profitons car au moment où sortira le dernier volume, nous serons tous morts. Eh bien, je pense que je vais, pour une fois et avec beaucoup de respect, démentir mon maître, puisque je crois que j'irai à pied lui remettre le dernier volume lorsqu'il paraît.
Donc, qui
est prévu pour 2012, normalement. Bon,
demain.
Ce sera peut-être 2013. C'est demain, oui. Je précise encore que ces volumes sont publiés à leur risque par les éditions Fayard, ce qui est assez considérable comme effort, et que depuis le volume, là nous allons publier le volume 5 à la fin du mois d'octobre, depuis le volume 3, le Centre National du Livre aide aussi cette parution, ce qui est une très bonne nouvelle parce que ça lui permet un équilibre économique qui n'est quand même pas indifférent pour des volumes qui font 1500 pages. Bon, pour l'éditeur, c'est une assez bonne nouvelle. Encore que, ça fonctionne très bien. Le premier volume avait une couverture de presse absolument extraordinaire. Et on pense que, on en parlait avec les gens de Fayard, ils n'auront peut-être jamais l'occasion de faire la vente des 13 volumes d'un coup, parce que les volumes s'épuisent les uns après les autres au fur et à mesure. Les bibliothèques les achètent évidemment beaucoup.
Ouais.
Et puis, il y a beaucoup de particuliers aussi qui... On se régale.
Ils veulent avoir la collection.
On se régale avec ça, voilà.
Ce n'est pas la seule activité éditoriale de la Fondation, d'ailleurs, puisque vous avez aussi un partenariat avec les éditions Nouveau Monde.
Oui, nous publions. Nous publions.
Vous publiez.
Oui, oui. Alors nous publions moins que nous n'avons publié au début. D'abord parce que
la
librairie ne va pas très bien, oui. La correspondance nous prend du temps. Et puis je pense aussi que les rééditions pures et simples, sans ajout, qui ont été multipliées depuis 2004, ont un peu tué le marché napoléonien. Comme la multiplication des écrits sur la Révolution française ont totalement tué les études révolutionnaires en 1989. Alors heureusement, on n'en est pas là. Donc nous publions, nous, deux livres par an, que nous voulons être à chaque fois ou des livres importants introuvables. Par exemple, on vient de publier une biographie de Marais, le secrétaire d'État impérial, qui est une biographie du baron Ernouf, qui est 1896, mais il n'y en a pas eu depuis. Et je vous avouerai franchement, on a cherché quelqu'un pour en faire une, on ne l'a pas trouvé. Parce que Ernouf avait pu consulter les mémoires de Marais. Or, les mémoires de Marais ont disparu, donc sans ça, on peut difficilement travailler. Et puis, nous allons publier un volume qui est en fait l'édition de la thèse d'une de nos boursières sur l'image du Premier Empire sous le Second Empire. Donc, c'est un peu scientifique, c'est un petit peu pour un public informé, mais c'est vraiment intéressant. Donc, c'est Juliette Glickman, je pense que vous la connaissez. Je me demande si elle n'est pas de votre promotion, Laetitia.
Non.
Non.
Mais non, on va peut-être passer à autre chose, laisser l'édition un peu de côté pour parler. Donc, pour en revenir à la collection, vous évoquiez tout à l'heure la collection de la Fondation. Mmh. La Fondation a une collection exceptionnelle et de nombreuses activités s'y rapportent, de magnifiques expositions en France et à l'étranger. Racontez-nous ça un petit peu.
Oui, alors Martial Lapeyre avait pris le goût des beaux-arts napoléoniens, si on peut dire, ou de l'art de vivre napoléonien. D'ailleurs, tous ceux qui ont fréquenté les salles des ventes dans les années 70-80 connaissent Martial Lapeyre, puisque c'est lui qui, généralement, achetait le plus beau lot de la journée, et donc le faisait rejoindre ses collections.
Il avait eu du nez, d'ailleurs.
Ah, il s'est pas trompé sur grand-chose, on peut même dire qu'il s'est trompé sur rien, parce qu'aujourd'hui, c'est véritablement un trésor. D'ailleurs, les expositions que nous organisons s'appellent « Trésor de la Fondation Napoléon ». C'est une collection qui faisait, quand nous en avons... Alors, ça a été un peu compliqué juridiquement, parce qu'il y a d'abord eu un usufruitier, et donc cet usufruitier est décédé en 2002, donc nous n'avons récupéré cette collection vraiment qu'en 2002, et à l'époque, elle faisait 1400 numéros ou 1500 numéros, donc ce qui veut dire que c'était quand même une très très grosse collection qu'il a d'abord fallu connaître. Évidemment, on avait la liste des œuvres dans le testament de Martial Lapeyre, mais bon, il a fallu les prendre en main, les regarder, en faire restaurer beaucoup. Mais on s'est dit tout de suite qu'il fallait les montrer, parce que c'est une collection qui était connue dans les milieux de l'art et dans les milieux napoléoniens. Puis on s'est dit, il faut faire quelque chose. Alors on a tout de suite programmé une exposition à Paris pour le bicentenaire du sacre de Napoléon, donc en 2004. Mais, et vous en savez quelque chose, Laetitia, on a été sollicité quelques mois avant par un musée brésilien qui voulait absolument monter ou qui montait une exposition à Napoléon. Je pense qu'on n'en verra plus jamais de notre vie, quoi, hein, parce que c'était une exposition absolument phénoménale, atypique. Donc, ils nous ont sollicité, puis on a accepté d'être un peu les leaders de cette opération et on a sorti, je crois, 300 objets pour cette exposition. Le musée de l'armée avait prêté des objets absolument fabuleux. Malmaison, Fontainebleau, le Louvre nous avait prêté des choses.
Le musée de la Légion d'honneur.
La Légion d'honneur. Enfin bref, ils y étaient tous. Et nous voilà donc partis au Brésil. Il y avait une exposition qui faisait sur 4000 mètres carrés, enfin, ou 3000 mètres carrés, quelque chose d'absolument fabuleux. Et donc, nous, ça nous a permis finalement de bien connaître cette collection, de continuer à bien l'étudier et d'ouvrir en 2004 au musée Jacquemart-André une exposition qui s'appelait Trésor de la Fondation Napoléon, qui a très très bien marché. Je crois que c'est un des records absolus du musée Jacquemart-André en nombre d'entrées. Et puis ensuite, la collection a été demandé à l'étranger. Donc,
au Mexique.
Depuis, le Mexique d'abord. Nous sommes ensuite allés en Allemagne, deux villes allemandes. 2008, c'était Rome et l'île d'Elbe. L'exposition a fermé il y a une dizaine de jours. Et puis, nous préparons maintenant les expositions de l'année prochaine. Je peux en parler parce que les contrats sont signés. La première aura lieu en Moselle, au château de Malbrouck, qui est un musée restauré par le Conseil général de la Moselle et qui se trouve aux trois frontières, France, Luxembourg, Allemagne, et qui font des expositions absolument extraordinaires, qui font entre 100 et 200 000 visiteurs par exposition, et alors que ce château est en pleine campagne, mais il y a une vraie politique culturelle dans ce département, donc ça, ce sera au mois de mars. Et puis, nous faisons une exposition presque simultanée, alors avec une autre partie de la collection, à Vienne, au château de Schalabourg, donc avec le Kunsthistorisches Museum, donc qui est le Louvre autrichien, si on veut, qui fait, lui, une grande exposition Napoléon, et où là, nous sommes, je dirais, le partenaire principal, mais ce n'est pas nous qui sommes leaders sur cette opération. J'ajoute que nous prêtons, évidemment, des objets, toutes les expositions que vous pouvez voir à Paris et qui ont peu ou prou trait à Napoléon ont des objets de la Fondation qui sont le prochain là, à l'Institut du Monde Arabe, nous avons prêté notre Bonaparte sur son dromadaire que tout le monde nous réclame, et ainsi de suite. Enfin, nous sommes un petit peu partout. C'est une activité, je dirais, et je m'en excuse auprès des grands amoureux de cette collection, dans la masse de travail de la Fondation, c'est une activité un peu marginale, mais c'est une activité très visible, c'est une activité
qui nous permet beaucoup de rencontres
et qui est évidemment une activité à laquelle nous portons vraiment le plus grand soin. D'abord parce que...
C'est aussi la vitrine de la Fondation.
C'est la vitrine, il y a des œuvres à transporter, enfin il faut être professionnel, donc nous avons bien sûr Bernard Chevalier, qui est vice-président de la Fondation, s'en occupe, si l'on veut, mais est vraiment en charge de ce dossier. Karine Huguenot, qu'on n'appellera pas un conservateur, car elle n'est absolument pas conservatrice, mais elle est responsable des collections, ce qui est déjà beaucoup.
Et très attachée à la collection.
Elle est très attachée à la collection, presque charnellement, on pourrait dire.
Oui. Merci beaucoup, Thierry. Nous arrivons au terme de notre émission. Grâce à vous, la Fondation Napoléon n'aura plus de secrets pour nos auditeurs. Beaucoup d'autres choses sont à découvrir sur les sites napoléon.org et napoléonica.org. Quant à vous, Thierry, on peut aussi vous écouter dans la médiathèque de Canal Académie. On vous retrouvera très bientôt, d'ailleurs, sur Canal Académie. Je vous dis au revoir.
Je vous remercie. Au revoir.